de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, cher Jolitar, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir, voici la voix de l'Indonésie. Présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. L'ambassade d'Indonésie à Bangkok organise un festival indonésien pour promouvoir la culture indonésienne. Maire de Makassar invite le consul général d'Australie à participer au F8. Ministre du Commerce vise un droit d'importation de 0% sur les exportations d'ananas et de bananes. Indonésie encourage les efforts conjoints pour relever les défis mondiaux au sein de la FCDM, WG. Trois étudiants indonésiens au Japon ont remporté des bourses AEON. Certains nombres de campus en Asie du Sud-Est discutent de l'atténuation du changement climatique. Et Perpani a préparé 16 archers pour les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. L'ambassade d'Indonésie à Bangkok et l'université Wallai Lak de Thaïlande ont organisé le festival indonésien les 17 et 18 juillet qui vise à promouvoir la culture indonésienne. L'attaché pour l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie à Bangkok, Ahmad Wicaksono, dans une déclaration à Jakarta, a déclaré jeudi que de bonnes relations entre les royaumes de la Thaïlande et l'Indonésie avaient existé bien avant l'indépendance de l'Indonésie, comme au XIIe siècle pendant le Sriwijaya et royaume de Majapahit jusqu'à présent. Cette bonne relation continue de se développer dans divers domaines de coopération grâce au rôle actif des parties prenantes dans les deux pays, notamment l'université de Wallai Lak, qui a plusieurs protocoles d'accord sur la coopération éducative avec plusieurs universités en Indonésie. Ahmad a expliqué que l'activité du festival indonésien était un effort pour promouvoir l'Indonésie sur une base continue auprès du peuple thaïlandais ainsi qu'un forum permettant à la jeune génération thaïlandaise de mieux connaître l'Indonésie afin que le contact entre les personnes pourrait être établi entre les peuples d'Indonésie et de la Thaïlande. Le maire de Makassar, Mohamed Ramdan Pormanto, a personnellement invité le nouveau consul général d'Australie, Todd Dias, à participer au Makassar International Aid Festival and Forum, F8, du 23 au 27 août 2023. Le maire de Makassar, Ramdan Pormanto, a donné l'invitation directement lors de sa visite Todd Dias à sa résidence privée mercredi. Ramdan Pormanto espère qu'il y aura une collaboration entre écoles sœurs, où les enseignants et les élèves de chaque pays effectueront des échanges d'apprentissage. Selon Ramdan, cela ajoutera à l'expérience et aux connaissances de chaque enseignant et élève afin qu'ils puissent comprendre les idées globales. Au cours de la réunion, ils ont également discuté de nombreux sujets, notamment des efforts pour poursuivre les programmes en cours entre le gouvernement de la ville de Makassar et l'Australie, tels que le programme Spatial Plan. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Zulkifli Hasan, vise l'application prochaine d'un droit de douane à l'importation de 0% pour les exportations d'ananas et de bananes. Même ainsi, il existe encore plusieurs obstacles à la mise en œuvre du commerce des matières premières dans divers pays, dont l'un est les taux de droits d'importation qui varient dans chaque pays. Zulkifli Hasan, dans le sud de Lampung, a expliqué mercredi qu'afin d'étendre l'application des taux de droits d'importation de 0% pour les exportations de produits de base, son parti est en train d'établir une coopération avec divers pays. Selon lui, avec la mise en place d'un droit d'importation de 0% pour le commerce des matières premières, on espère que le marché local des matières premières se développera. On le sait, dans un effort pour étendre la mise en œuvre du droit de douane à l'importation à 0%, le gouvernement accélère à l'achèvement des négociations de l'accord de partenariat global Indonésie et Union européenne, IEU-CEPA. Le ministre des Finances de la République d'Indonésie, Sri Mulyani, a déclaré que l'Indonésie encourage les efforts pour relever conjointement les défis mondiaux des pays du G20 dans le cadre des activités de la troisième réunion du groupe de travail des députés des finances et de la Banque centrale de l'ASEAN, AFCDM-WG, sous la présidence indienne. Ces questions couvrent la finance et les infrastructures durables, l'économie mondiale et la santé, l'architecture financière internationale, la fiscalité internationale, ainsi que le secteur financier et l'inclusion financière. La ministre des Finances, Sri Mulyani, dans sa déclaration citée par Antara mercredi, a déclaré que dans le programme de financement et d'infrastructures durables, il existe divers facteurs importants pour atteindre des objectifs communs dans la réalisation des objectifs de développement durable et du programme climatique commun. Ces facteurs comprennent le financement de la transition, les régimes politiques des financements mixtes qui sont complets du point de vue budgétaire, du secteur réel, macro et micro-prudentiel, et la classification des activités de transition verte. Pour atteindre cet objectif, Sri Mulyani encourage également la collaboration mondiale et les efforts internationaux afin que chaque pays reste sur la bonne voie pour atteindre ensemble les objectifs climatiques et de développement durable. Trois étudiants indonésiens qui étudient actuellement au Japon ont remporté des bourses de la Fondation Aion, 1% Club, qui ont été sélectionnés parmi une trentaine de leurs boursiers de divers pays, tels que la Chine, le Laos, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge et l'Indonésie. Les trois étudiants sont Clarissa Hélène Kezia de l'Université International of Japan, Tah Andrew Ryan, Tohoku University et Mariam Gania Jasmine de l'Université Kyoto, l'attaché à l'éducation et à la culture de l'ambassade de la République d'Indonésie à Tokyo, Yusli Wardiatno à Tokyo a déclaré mercredi que la coopération en matière d'éducation entre les pays pourrait renforcer les liens d'amitié entre les nations et favoriser la solidarité mondiale pour façonner un avenir meilleur pour le monde. Yusli espère que la bourse offrira aux étudiants la possibilité de participer à des échanges culturels, d'élargir les perspectives des étudiants et de renforcer les liens entre l'Indonésie et le Japon. Un certain nombre d'universités d'Asie du Sud-Est ont discuté des bonnes pratiques en matière d'atténuation du changement climatique lors de la conférence numéro 7 de la série de webinaires de l'ASEAN Higher Education AHEC 2023 qui s'est tenue en ligne. Le chancelier de l'Université maritime de Raja Ali Haji Umrah, archipel de Riau, le professeur Agung Damar Shakti, lors d'un webinaire surveillé de Jakarta mercredi, a déclaré que les données d'un certain nombre d'organisations scientifiques montraient le même schéma, à savoir l'élévation du niveau de la mer et le changement dans la terre, entraîné par les humains et le changement climatique. Il a ajouté que les habitants des zones aquatiques et des îles éloignées ont ressenti l'impact du changement climatique. Un certain nombre de phénomènes naturels tels qu'El Niño ont également été ressentis par le public ces derniers temps. Selon lui, l'atténuation liée au changement climatique est considérée comme très importante car il s'agit de l'un des défis mondiaux les plus urgents auxquels nous sommes actuellement confrontés. L'Université Terbuka organise la série de webinaires AHEC 2023 numéro 7. En plus des présentateurs d'Indonésie, un certain nombre de présentateurs de plusieurs pays ont également donné leur point de vue, notamment le ministre du Développement du Brunei Darussalam, Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, qui a évoqué le rôle du gouvernement dans la lutte contre les catastrophes causées par l'élévation du niveau de la mer. L'exécutif central de l'Association indonésienne de tir à l'arc, Pepe Parpani, prépare ses athlètes à participer aux Jeux asiatiques 2022 ou bien 2023 à Hangzhou, en Chine, du 23 septembre au 8 octobre. Pepe Parpani Abdulrazak, vice-président de Pour le développement et la réussite, a déclaré aux journalistes en marge de l'ouverture du championnat national junior de tir à l'arc 2023 au Jakarta Japanese Club Ground Central Field, Bogor, Java Occidental, mercredi. Parpani espère que les athlètes indonésiens pourront remporter des médailles lors de la 19e édition du plus grand événement sportif d'Asie. C'est important car les Jeux asiatiques de tir à l'arc de 2022 font partie de la qualification pour les 33 barré 2024 Jeux olympiques à Paris, la France. Razak a déclaré que l'objectif de Parpani en arc classique aux Jeux asiatiques de Hangzhou était de gagner un billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Pour cette raison, il a poursuivi afin d'atteindre cet objectif. Parpani prévoit d'envoyer des athlètes indonésiens suivre un camp d'entraînement en Corée du Sud pendant un mois avant de se présenter aux Jeux asiatiques de Hangzhou. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on voit la rubrique L'accueil diplomatique. Intitulée L'ambassade d'Indonésie a créé la maison indonésienne des haricots Singapour. L'ambassade de la République d'Indonésie à Singapour, en collaboration avec le bureau de la Banque d'Indonésie et les représentants de la Banque BNI à Singapour, a créé Indonesia House of Bin Singapour, ou IHOB Singapour, le 13 juillet 2023. Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Singapour qui a reçu à Jakarta lundi, sa création est en collaboration avec des partenaires de cafés singapouriens qui ont 5 magasins à Singapour, à savoir Bar d'Expresso de 6 onces. L'ambassadeur indonésien à Singapour, M. Suryo Pratomo, a déclaré « À l'avenir, Indonesia House of Bin Singapour deviendra également un espace spécial pour les micro, petites et moyennes entreprises des exportateurs de café indonésien, afin qu'ils aient la possibilité de commercialiser leurs produits à Singapour, afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché mondial des exportations. » À la même occasion, le directeur général du développement national des exportations du ministère du Commerce, M. Didi Sumedi, a également déclaré que la création de IHOB Singapour était une étape concrète du ministère du Commerce pour toujours développer une stratégie de promotion durable et collaborative. Didi a ajouté que Singapour est l'un des pays les plus importants pour la destination des exportations de café de l'Indonésie et est devenu un baromètre des tendances de développement industriel dans la région et aussi dans le monde, parce que Singapour a un caractère de marché en tant que cause de rencontre ou module de réunion. L'ambassade d'Indonésie à Singapour a expliqué que IHOB Singapour sélectionnera et organisera les variantes de grains de café indonésien à acheter par 6 Oz Espresso Bar et les variantes de grains de café seront affichées à IHOB Singapour en alternance tous les 3 mois. Toutes les variantes de grains de café sélectionnées d'Indonésie qui réussissent la sélection et la conservation seront vendues commercialement à IHOB Singapour, soit directement aux consommateurs, soit d'entreprise à entreprise, et d'autres points de vente de café ou à des commerçants dans divers emballages. Le café indonésien sera commercialisé dans des emballages standards de 250 g jusqu'à 1 kg, des dosettes de café et des capsules de café, y compris 60 kg en emballage de gros. L'ambassadeur d'Indonésie à Singapour, M. Suryo Pratomo, le directeur général du développement national des exportations du ministère du Commerce, M. Didi Sumedi, et des représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, et aussi l'Association du Café de Singapour, ont assisté à la signature du protocole d'accord concernant la création de IHOB Singapour. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz international Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lak Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants seront annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts. Qui sait que vous devez l'un des gagnants.
from Indonesia to the world.
Bonsoir à tous, nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 20 juillet 1969, Neil Armstrong a atterri sur la Lune. Neil Armstrong, un astronaute des États-Unis, est devenu le premier humain à mettre le pied sur la Lune le 20 juillet 1969. Armstrong a quitté la Terre 4 jours plus tôt en utilisant Apollo 11 avec Edwin Aldrin Jr. et Michael Collins. Le 19 juillet 1969, Apollo 11 est entré sur l'orbite de la Lune. Le lendemain, Armstrong et Aldrin se sont séparés de l'avion en utilisant le module Eagle, tandis que Collins est resté dans Apollo 11. Armstrong a été le premier à poser les pieds sur la Lune. Quelques minutes plus tard, Aldrin a rejoint Armstrong. Un jour plus tard, le 21 juillet 1969, Armstrong et Aldrin retournèrent à l'avion. Les trois sont revenus sains et saufs sur Terre le 22 juillet 1969. Passons maintenant à l'événement du 20 juillet 1979. Le faisceau spatial Viking 1 atterrit avec succès sur Mars. 7 ans exactement après l'atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune, Viking 1, un satellite sans pilote fabriqué aux États-Unis, est devenu le premier faisceau spatial à atterrir avec succès sur la surface de Mars. Viking 1 a été lancé le 20 août 1975 et est arrivé sur Mars le 19 juin 1976. Le 20 juillet 1976, Viking 1 atterrit finalement sur Crise Planitia, une plaine de la région arctique de Mars. Ils ont également réussi à envoyer la première photo de la surface jaune de Mars. Viking 1 détient également le record de la plus longue mission de surface de Mars à 6 ans et 116 jours. Nous terminons l'histoire du jour avec l'événement du 20 juillet 1937, la mort de Marconi. Guglielmo Marconi, l'inventeur de la technique d'envoi d'ondes radio, est décédé le 20 juillet 1937. Marconi est né en 1874 à Bologne, en Italie. Depuis qu'il était jeune, Marconi s'était intéressé à la physique et à l'électronique et avait étudié les travaux de physiciens célèbres tels que Maxwell et Hertz. En 1874, il a commencé sa propre expérience et a réussi à envoyer des signaux par onde radio sur une distance d'un mille et demi. Ensuite, Marconi a continué à développer la découverte et en 1932, il a réussi à trouver un système radiotéléphonique. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kau ragukan kesungguhan cintaku, buang semua jauh-jauh dari pikiranmu. Yang ku tahu aku hanya inginkan dirimu, hanya ta-da. Hanya dirimu diri ini sendiri dalam sepi hingga akhirnya kau datang. Saat itu aku membutuhkanmu, hanya kamu. Tidak yang seperti dirimu membuat hidupku lebih sempurna.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie. Et pour le titre, l'Indonésie et les États-Unis établissent une coopération bilatérale pour réduire les émissions dans le secteur forestier et l'utilisation des terres. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Environnement et des Forêts, renforce la coopération bilatérale avec le gouvernement des États-Unis concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des forêts et de l'utilisation des terres. Cette coopération est inscrite dans un accord cadre de projet bilatéral signé par les représentants des deux pays concernant la foresterie et autres utilisations des terres. Polonet 5 qui s'est tenu à Jakarta lundi 17 juillet. La ministre indonésienne de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a déclaré lors de cette signature que ce nouvel accord bilatéral faisait suite à la fiche d'information de la Maison-Blanche discutée par le président Jokowi et le président Biden lors de la réunion bilatérale au sommet du G20 à Bali l'année dernière. Selon Siti Nurbaya, cet accord bilatéral représente le rôle de financement climatique dans les efforts de l'Indonésie pour réaliser le Polo Net 5 2030 qui devrait nécessiter jusqu'à 14,57 milliards de dollars américains et jusqu'à présent, le financement principal provient toujours du budget des recettes et des dépenses de l'État indonésien. Comme cité dans le communiqué de presse du ministère de l'Environnement et des Forêts, Polo Net 5 2030 est une condition où le niveau d'absorption des gaz à effet de serre des secteurs des forêts et d'autres utilisations des terres en 2030 sera équilibré ou même supérieur au niveau des émissions de gaz à effet de serre du secteur forestier. Dans un communiqué de presse du ministère de l'Environnement et des Forêts, l'administrateur de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, Samantha Power, a déclaré que l'accord bilatéral avec le gouvernement indonésien vise à soutenir les efforts qui ont été déployés pour prévenir la dégradation des forêts, réhabiliter les forêts de mangroves, restaurer les tourbières et protéger la faune indonésienne. Selon Samantha, l'Indonésie est considérée comme ayant enregistré des progrès impressionnants dans les efforts de conservation des forêts, car elle a réussi à réduire la déforestation de 65% au cours des 7 dernières années. À la même occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sung Yi Kim, a déclaré que l'accord bilatéral entre les États-Unis et l'Indonésie visait également à soutenir la conservation des forêts et la protection de la biodiversité. Selon l'ambassadeur Sung, grâce à l'accord bilatéral, l'USAID a contribué jusqu'à 50 millions de dollars américains sur 5 ans. C'est le résultat, c'est en Indonésie pour ce soir.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ses auditeurs, la danse typique de Manggarai, à savoir Tiba Meka, accueille le chef d'État et le délégué au sommet de la scène 2023, qui sont arrivés à Labuan Bajo mardi 9 mai. En langue Manggarai, Tiba signifie accepter et Meka signifie invité. À conséquence, la danse tiba meka est synonyme d'accueil des invités. La danse tiba meka est toujours exécutée par les résidents locaux lors de l'accueil d'invités spéciaux, à la fois officiels et touristes étrangers et nationaux, ainsi lors de diverses cérémonies religieuses. La danse tiba meka s'inspire des coutumes du peuple Manggarai pour accueillir les invités qui visitent Manggarai. Les invités seront accueillis avec joie. Les danseurs sont également tenus de donner une expression amicale avec un sourire en dansant. Les virages des danseurs sont compensés par des touristes en signe de gratitude pour avoir visité la région de Manggarai. Les virages des danseurs sont compensés par des sourires en signe de gratitude pour avoir visité la région de Manggarai. Les danseurs dansent devant le groupe d'invités tout en tenant un béret ou un panier local pour stocker les feuilles de bétel contenant des jeunes feuilles de bétel à servir aux invités. Les danseurs de tiba meka sont généralement des femmes, mais les hommes peuvent également exécuter cette danse. Cette danse est généralement jouée par un pemaka, 4 à 6 danseurs et 3 musiciens. Pemaka est un homme tenant un kris ou une machette qui ouvre la voie et chasse les esprits pour la sécurité des invités. La danse tiba meka est accompagnée d'instruments de musique traditionnelle de Manggarai, à savoir des gongs et des tambours. Pendant ce temps, les costumes utilisés par les danseurs sont le balibelo ou bando, le mbero, vêtements et le songke ou le tissu en bas. Ces auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec comme titre La danse tiba meka de Nusa Tenggara Orientale. Demain, nous nous retrouverons avec d'autres sujets plus intéressants. À bientôt!
Kau baca hatiku
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la Coupe du Président e-sport 2023. La Coupe du Président e-sport 2023 se tiendra à nouveau du 18 juillet jusqu'au 22 octobre 2023 au Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Ce tournoi est l'un des tournois qui invite toute la communauté e-sport en participant régulièrement à des jeux locaux en organisant des qualifications ouvertes auxquelles tout le monde peut participer. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, lors d'une conférence de presse à Jakarta lundi, a déclaré que la présence de la Coupe du Président e-sport 2023 soutiendrait également l'industrie locale du jeu en Indonésie, à savoir Lokapala et Bataille de Satria Dewa. Il apprécie également grandement la tenue de la Coupe du Président e-sport 2023 par Kincir Puangkom pour avoir pu présenter deux matchs locaux cette année. Sandiaga Uno espère également que la Coupe du Président e-sport 2023 sera en mesure de fournir un stimulus plus massif pour soutenir uniformément la croissance des talents indonésiens de e-sport afin qu'ils soient prêts à participer à des tournois e-sport de classe mondiale. Outre les jeux locaux, la Coupe du Président e-sport 2023 s'affrontera également deux jeux étrangers populaires, Mobile Legends, à savoir Bang Bang et Valorant. La Coupe du Président e-sport 2023 sera la première année où le jeu Valorant participera à la Coupe du Président e-sport 2023. L'organisateur en chef de la Coupe du Président e-sport 2023, Rangga Danu, espère que dans ce cinquième événement, il y aura plus de participants et plus de nouveaux membres se joindront. L'objectif est de 100 000 participants avec une audience de 70 millions de personnes. La directrice des événements nationaux et internationaux du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Madame Desi Ruhati, a déclaré que la Coupe du Président e-sport 2023 pourrait être emballée avec le concept de mettre en valeur la culture indonésienne et massivement publiée tant au pays qu'à l'étranger. Le format de la compétition Lokapala dans la Coupe du Président e-sport 2023 se présente sous la forme d'une qualification ouverte, se compose de 256 équipes réparties en 8 groupes, utilisant un système d'élimination unique au meilleur des 1. Chaque groupe qualifiera 16 équipes pour le dernier tour de qualification ouverte. Il y aura 16 équipes dans le tour final de qualification ouverte qui s'affronteront en utilisant le système d'élimination simple au meilleur des 3. Et le match final au meilleur des 5. À la fin, il y aura deux équipes qui se qualifieront pour la finale pour se battre pour la Coupe du Président e-sport 2023. Chers amis, c'est la rubrique d'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
We'll be right back.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de January Christie intitulée Melayang. Sur Twitter, la carrière de January Christie est montée en flèche, entre autres grâce au single Melayang, écrit par Diane Pramanaputra et Dedi Dukun. Avec un arrangement jazz, la chanson Melayang a su captiver les fans de musique indonésienne à cette époque. Les organisateurs des BASF Awards, un prestigieux événement de récompense musicale à l'époque, ont même ouvert une nouvelle catégorie, à savoir pop jazz, pour accueillir le style de musique interprété par January Christie. La chanson Melayang est incluse dans l'album du même nom qui est sorti en 1986. Cette chanson a été nommée l'une des 150 meilleures chansons indonésiennes de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Bon, chers auditeurs, voici January Christie va chanter une chanson intitulée Melayang. Bonne écoute!
Gejolak imanmu, korbankan melut diri. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Ha. Gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, angan. Tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauhmu melayang.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.